Non.
Ah non.
Non.
Très bien.
Parce que bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance.
Et bu de l'alcool et fumer du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
Un fasciste, un fantôme, on est ici pour avancer.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède?
Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées la plus belle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette émission. Nous sommes le jeudi 11 février 2021 et nous sommes partis pour un Canu Info avec Laurent, bien évidemment. Je suis Delphine, au cas où vous nous écouteriez pour la première fois, et ben bienvenue à vous tous et toutes. On va parler de plein de choses ce soir, on commencera avec une bonne nouvelle. Ensuite on aura des trucs glauques, ça sera avec Laurent parce que Laurent nous fait les trucs glauques.
Moi je fais glauque aujourd'hui.
Il n'y a pas qu'aujourd'hui que tu fais des trucs.
Ah bon, merde.
Mais bon, ça nous arrive. On parlera d'économie avec tout un tas de petites brèves, plus ou moins longues d'ailleurs. Et puis on parlera aussi d'environnement pour terminer cette émission avec une bonne nouvelle aussi. Hein. Oui, on va commencer et finir avec une bonne nouvelle. Je pense que ça c'est plutôt bien des fois de parler quand même de bonnes nouvelles. Alors la bonne nouvelle du jour pour moi... ça nous vient d'Arabie Saoudite, c'est des nouvelles de Loujain Al-Atlout qui a été condamné, souvenez-vous, en décembre dernier, en décembre 2020, hein, c'était il y a juste quelques semaines, à 5 ans et 8 mois de prison. Alors Loujain, elle a été arrêtée plusieurs fois en Arabie Saoudite, elle fait partie de ces femmes féministes et militante des droits humains qui subissent la répression saoudienne. Alors elle avait été arrêtée une première fois pour le droit des femmes, elle avait été arrêtée aussi dans le cadre des mouvements pour le droit des femmes à conduire, un droit simple, et toute l'humanité devrait être concernée par un droit aussi simple que celui-ci. Elle a été donc arrêtée... avant hein, sa condamnation, elle était déjà en prison depuis plusieurs années. Sa sœur, sa famille tentait de la faire sortir de prison. Sa famille a raconté qu'elle avait été torturée derrière les barreaux, qu'elle a subi des agressions sexuelles et partout dans le monde, il y avait des mouvements qui se mettaient en place pour la soutenir et faire en sorte qu'elle puisse être libérée assez rapidement. Il y avait des universitaires qui s'étaient portée dans les médias, qui avait porté sa voix dans les médias, puisqu'elle-même hein, était inscrite à la Sorbonne en France entre 2016 et 2018. Et donc on a appris sa libération hier, mercredi. L'État saoudien se retrouve dans une situation bancale, c'est-à-dire qu'avec la nouvelle administration Biden aux États-Unis d'Amérique, il y avait une nouvelle demande de libérer cette femme, cette militante, mais comme bien d'autres, hein, d'ailleurs. Et puis surtout, l'État saoudien donc condamne une femme sur une vague loi antiterroriste. On ne sait pas bien, en fait, hein, pourquoi finalement elle a été condamnée. C'est pas très transparent, hein, évidemment, la justice saoudienne. Hein, bah oui, ça te fait réagir, Laurent.
Je ne sais même pas si on pourrait vraiment appeler ça de la justice.
Bah voilà, c'est tout à fait juste. En tout cas, finalement, elle aura fait qu'une partie de sa peine, mais elle l'aura fait quand même, sans savoir pourquoi elle l'a fait. Hein, c'est ça aussi l'Arabie saoudite. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, hein, parce que cette femme va retrouver la liberté. Elle est interdite de sortie, elle a retrouvé la liberté hier. Elle est interdite de sortie du territoire, donc c'est une liberté quand même avec des frontières autour. Mais en tout cas, on peut penser qu'en étant libérée et libre, les sévices qu'elle a subis vont cesser, et on espère qu'à l'avenir, elle ne sera plus emprisonnée, parce qu'elle l'avait déjà été plusieurs fois avant ces dernières années d'emprisonnement et cette condamnation donc de décembre 2020. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle et il faut savoir s'en réjouir.
Alors, moi je vais faire une petite rubrique sur nos ennemis, les racistes, avec deux petites infos. La première sur le célèbre Renaud Camus, écrivain raciste, âgé de 74 ans aujourd'hui. Et j'ai une triste nouvelle, il a été relaxé hier, mercredi 10 février, par le tribunal correctionnel de Paris, alors qu'il était poursuivi, à mon avis, à juste titre, pour injure raciale, à la suite de la publication d'un tweet, c'était en avril 2019. Dans ce tweet, il disait, je cite, « Une boîte de préservatifs offerte en Afrique, c'est 3 noyés en moins en Méditerranée, 100 000 euros d'économie pour la CAF, 2 cellules de prison libérées, et 3 cm de banquise préservée. » Alors, c'est ultra insultant. Alors, 3 noyaux en moins en Méditerranée, je suis pas sûr que, contrairement à ce qu'il dit, il y ait autant d'Africains qui cherchent à venir en Europe. Deuxièmement, 100 000 euros d'économie, ça veut dire que tous les migrants sont des parasites, c'est ce qu'il laisse entendre. Soit parasites, soit en prison, c'est-à-dire des délinquants. Et 3 cm de banquise préservée, on rappelle que les Africains ont un impact environnemental beaucoup plus faible que les Européens. Bref, un tweet raciste et mensonger. Pour le tribunal en charge de l'affaire, si le style et les images de l'écrivain peuvent manquer d'empathie, disent-ils, et choquer et heurter la délicatesse, il relève, je cite, hein, parce que moi je ne pense pas du tout ça, il relève du choix du mode humoristique pour traiter par l'absurde un sujet politique et dramatique dans le cadre d'un tweet propice à une concentration du propos autour de formules choc. Avec cette critique satirique d'un système de croissance et de certaines de ses conséquences, Renaud Camus n'a pas dépassé les limites admissibles du libre exercice de la liberté d'expression, selon donc le tribunal. C'est moi où il y a un problème. Comment peut-on penser que ce théoricien raciste faisait juste de l'humour sans arrière-sens et arrière-pensée politique? Voilà, alors je comprends pas tout. Alors l'autorité judiciaire considère également que le propos incriminé s'insère dans un débat d'intérêt général relatif à la décroissance démographique et qu'il s'intègre en outre dans une récurrence de tweets postés par Camus entre 2015 et 2020, prenant position de manière générale pour un contrôle des naissances sur l'ensemble de la planète, y compris en Europe. Alors ça, c'est pas totalement faux, il a beaucoup tweeté sur le contrôle démographique et la décroissance démographique, mais juste en oubliant que le poids démographique d'un Européen est énorme par rapport au poids démographique d'un Africain. Du coup, eux, ils sont quasi négligeables, nous pas du tout. Hein, mais ça, c'est son racisme, forcément. Alors, le parquet, lui, il avait requis 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende pour injure raciale. Ça semblait, je trouve, assez logique. Le procureur avait estimé, en novembre dernier, que le tweet de Renaud Camus réduisait la population africaine à des choses et des chiffres, ce qui constituerait un procédé éprouvé d'une rhétorique raciste. Oui, moi, je trouve que ce n'était pas le plus grave, mais bon. Les mots sont choisis, la phrase est construite pour mieux humilier, diviser, convaincre de cette division, avait rajouté la procureure. Donc ça semblait plutôt bien parti, on ne s'attendait pas du tout à cet horrible relax. Voilà. Alors Camus, lui, il avait fait valoir forcément la dimension humoristique et caricaturale de son tweet, j'y arriverai pas avec ses tweets, hein, moi, avec ses gazouillis, dirons-nous, que la limite de 280 caractères avait limité. On rappellera quand même que l'écrivain raciste est connu du grand public, notamment pour sa défense de la thèse du grand remplacement, qui postule que les populations européennes, majoritairement chrétiennes, on l'emmerde, on n'est pas chrétien, sont progressivement remplacées par les populations afro-maghrébines, majoritairement musulmanes. C'est ça, la thèse raciste est fausse, bien évidemment, du grand remplacement. D'ailleurs, on lui rappellera qu'on est tous afro-descendants, hein, qu'on vient tous d'Afrique vers... A priori, on vient tous à peu près du Botswana. Mais si on lui dit ça, il va vomir. Moi, je vais lui dire, comme ça, si ça le fait vomir, ça le rend malade. Qu'il se rappelle que l'Homo sapiens sapiens vient d'Afrique. Peut-être que ce n'est pas un Homo sapiens sapiens, parce qu'il est bien en dessous de ça. Peut-être que lui, il est encore à un stade avant l'évolution Homo sapiens sapiens. C'est peut-être pour ça aussi. Bref, il a été plusieurs fois condamné hein, pour sa haine et ses différents propos. En 2014, notamment par la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris, il avait eu 4000 euros d'amende pour des propos qui constituaient, je cite, « une très violente stigmatisation des musulmans, présentés par lui-même comme des voyous, des soldats et le bras armé de la conquête hein, ». C'est toujours dans sa théorie du grand remplacement. C'est un horrible raciste, et c'est triste que finalement il n'ait pas été condamné. Alors, on n'est pas toujours des aficionados de la justice de notre société, mais on aurait quand même aimé une belle condamnation. Et puis toujours dans le racisme, un truc qui sortit sur Hulk. Tu sais, l'homme gros vert là qui retourne les voitures dans les films, là, tu sais.
Dans Marvel aussi, dans les comics.
Dans les comics.
Il y a eu une série, si vous avez un certain âge...
Ah oui.
Bien certain et bien tassé, vous vous souvenez de cette série des États-Unis d'Amérique avec un Hulk un peu verdâtre.
Très verdâtre, il est toujours vert un Hulk
mais
normalement.
Mais pas aussi vert que dans certains comics où vraiment il est vert pomme dans certains comics. Quand même.
Très bodybuildé aussi.
Ouais.
Ah bah c'est forcément Hulk.
Tout à fait.
Alors là on est dans une version moderne hein, du Hulk qui s'appelle Devil Hulk. Donc une récurrence moderne, hein, tu sais, ils relancent les personnages, hein, Marvel comme les autres. Donc ça c'est porté par un écrivain dont j'ai perdu le nom mais je vais le retrouver tout de suite, Joe Bennett, un écrivain dessinateur par Joe Bennett. Alors il y a un problème de racisme dans une de ces BD qui est sortie il y a pas bien longtemps. Alors on y voit le personnage de Bruce Banner, donc quand il est pas Hulk il s'appelle Bruce Banner, qui achète un collier de diamants dans une bijouterie, donc une scène assez classique. Le truc c'est que derrière il y a des inscriptions qu'on voit à l'envers sur la vitre de la bijouterie, des inscriptions qui ont été aujourd'hui effacées et qui sont largement antisémites. Alors, qu'est-ce qui est écrit ? Il est écrit « Cronenberg Chevalerie » à l'envers. Alors, sauf que c'est triché. Alors, le N de Cronenberg est remplacé par un M et surtout, le L de Chevalerie, qui veut dire marchand de joaillerie en fait, est à sauter. Et du coup, ça fait « Joey ». Alors, je ne veux pas le faire en anglais, mais ça, du coup, ça veut dire « Juiverie ». C'est beaucoup moins classe, du coup, d'un coup. Et puis, bien sûr, il y a une étoile de David, jaune, sur la devanture. En fait, en gros, on a l'impression... Alors, ça ne se passe pas dans les années 40 en Allemagne. Parce que là, ça pourrait avoir un sens d'avoir cette devanture comme ça dans les années 40 en Allemagne. Sauf que pas du tout. Et c'est vraiment un truc purement antisémite. Il y a pas mal de sites qui l'ont sorti. Le site français là, qui s'appelle Comic XF rappelle qu'en fait, il n'y a qu'une interprétation possible. Hein, c'est un propos antisémite qui est placé là volontairement. Alors, Marvel, qui est donc la maison d'édition, a déclaré n'avoir pas percuté sur l'image, n'avoir pas fait gaffe. Elle a donc aujourd'hui effacé ce qu'il y avait sur la vitrine dans la version numérique et dans le prochain tirage de la version papier, ça sera effacé. Alors, l'hypocrite Joe Bennett dit « Ah non, mais j'ai fait une erreur. Hein, c'est quand j'ai écrit à l'envers, j'ai pas fait attention, j'ai fait une erreur. » Ouais, enfin, sauf que toute l'iconographie, tout le L qui saute, ça fait pas qu'une erreur, ça fait plusieurs erreurs, du coup, c'est quand même douteux. Surtout qu'il a quand même pas très bonne réputation, ce Joe Bennett. Il avait déjà été montré du doigt pour des propos homophobes. En fait, sur un de ses Immortal She-Hulk, c'est le nom du comics, il avait posté la couverture du comics qu'il faisait sur Instagram. Et il y avait un de ses followers là, qui avait dit « Oh, regarde, c'est le fils transgenre en colère de Hulk, en se moquant. » Et lui, au lieu de dire, ben non, c'est pas ça, t'as pas le droit de... Il s'était marré avec le gars. Donc on se dit, tiens, il est trans, ça le fait marrer, lui. Hein. Et puis, à un autre moment, il s'était attaqué à un journaliste, Glenn Greenwald, qui s'était fait un petit peu attaqué et qui avait reçu une claque. Alors, il faut savoir que ce Glenn Greenwald, journaliste, est gay. Hein, donc, est homosexuel, par les Français. Et ben lui... Il avait fait une remarque en disant qu'il aurait plutôt mérité un coup de poing. Ok, il n'aime pas les gays non plus. Alors j'étais excusé, tout ça. Mais ça fait un peu beaucoup au bout d'un moment, toutes ces excuses. Donc voilà, le mieux, ça serait que Marvel le vire. Ce qui avait été le cas hein, sur un X-Men en 2017, un X-Men Gold. Il y avait eu déjà un truc raciste et antisémite. Et ils avaient viré le responsable. Bon, là, ils pourraient faire pareil. Alors comme la BD a un énorme succès... ils vont sûrement pas avoir le courage, ils vont juste faire un peu attention, une demi-mesure. Tu vas peut-être faire la Birmanie, non ?
Non, je vais plutôt faire des brèves de Capital, puisque c'est ce que j'ai dans la main. Alors, je vais commencer par une information dont ce n'est pas tant le contenu, c'est-à-dire l'actualité économique qui m'a interpellée, mais plutôt la présentation. Vous savez certainement que IKEA a quitté ses locaux de Saint-Priest, locaux de 20 000 mètres carrés. Les locaux sont vides depuis septembre 2019 et prochainement, globalement, dès qu'on va pouvoir aller quelque part à plusieurs dans un endroit sans couvre-feu et sans interdiction sanitaire, c'est-à-dire bientôt, là sûr, 2021, espérons-le, enfin en tout cas pour les balades, il va donc y avoir une nouvelle activité dans ce lieu, en tout cas sur 4000 m² de ce bâtiment. Alors déjà, on m'explique que c'est un concept... lyonnais qui va s'installer. Alors déjà, quand moi on parle de concept, je m'interroge. C'est The Gentleman Lifestyle Republic qui va s'installer et porter un concept qui s'appelle Sofo. Sofo, c'est un quartier en Suède, ce qui fait qu'il y a un jeu de mots, vous voyez, avec Kia avant. Enfin, jusque-là, bon, on peut rigoler. Il va y avoir un projet autour de plusieurs parties, un espace restauration, un espace loisir, avec un playground de basket, des tables de ping-pong ou encore une scène où il va y avoir des DJ, des pièces de théâtre, du stand-up, des lectures. On nous explique aussi qu'on pourra venir sans être obligé de venir avec son portefeuille. Par contre, il va falloir venir avec un dictionnaire, je pense, puisque si j'ai tout compris, ça va être aussi un endroit qui va être à la fois public et puis aussi sur une partie plus entreprise. Et ça sera, je cite, du B2B, corpo avec du coworking. Et c'est là où je pense que si tu peux y aller sans porte-monnaie, quand même, il va falloir un petit peu quand même un traducteur ou une traducteuse avec toi. C'est du concept, donc. Hein, voilà. Et puis, une information maintenant qui fait que vraiment, vous allez pouvoir mourir tranquille à 20h02 quand on aura fini cette émission. C'est extrêmement important. Alors, vous savez peut-être que Patrick Bruel est un joueur de poker, qui d'ailleurs a gagné plein de choses, hein. C'est plutôt a priori un bon joueur de poker, hein, à côté de la chanson, qu'il est associé depuis une dizaine d'années avec trois autres hommes dans le site de paris en ligne Winamax, et donc on a appris qu'il allait quitter Winamax pour une nouvelle aventure d'entrepreneuriat, et c'est là où en fait si je vous raconte ça, c'est parce que peut-être que ça peut vous ouvrir des opportunités. Pensez à tout ce que vous allez pouvoir faire demain grâce à Patrick. Puisque Patrick va resserrer ses projets autour de l'huile d'olive.
Ah mince, il se met dans l'huile d'olive.
Alors il est déjà
c'est business
de l'huile d'olive. Voilà. Donc c'est tout pour vous dire qu'on peut faire plein de choses dans
quand on est riche.
La vie et que l'entrepreneuriat s'ouvre à toi, toi qui m'écoutes. Tu peux donc te lancer dans l'huile d'olive après avoir été actionnaire d'un site de paris en ligne et tout en faisant de la chanson et de la comédie. Donc voilà, c'était juste que c'est marrant parce que... effectivement, comme tu le dis, il faut déjà avoir un peu d'argent pour faire certaines choses. Mais c'est marrant de voir aussi comment tout ça est valorisé dans les médias quand on s'appelle Patrick Bruel, qui on demandait peut-être pas tant d'ailleurs que son huile d'olive fasse le tour de la presse en ligne et de la presse écrite. Mais bon, c'est marrant de voir aussi des artistes, comme un certain nombre d'ailleurs, investir dans l'huile d'olive. Mais on sait que d'autres comme on investit beaucoup, par exemple, dans la vigne et le vin, voilà. Et donc, dans la restauration, ça reste quand même un secteur un peu privilégié du milieu artistique. Et puis, c'est Ryanair qui n'est pas content et remet un pied dans la porte face à Air France. Vous savez qu'il y a donc eu un plan de l'État français pour soutenir massivement Air France. Et Ryanair, depuis le début, s'énerve contre cette aide d'État qui est jugée anticoncurrentielle, non concurrentielle, puisque Air France profite de la manne de l'État sur le territoire français, tout en ayant en même temps des possibilités de créneaux mis en place plus importants que les autres. Vous savez qu'en général, quand vous êtes une compagnie dans votre propre pays, vous avez plus de créneaux, plus de hubs, plus de facilités à exister sur les aéroports du pays. Et pour Ryanair, qui est une société low cost, une multinationale low cost, c'est plus difficile de s'implanter. Et pourtant, c'est ça, hein, le nerf de la guerre, c'est avoir des créneaux, avoir du hub, avoir des possibilités pérennes d'installation sur un certain nombre d'aéroports. Alors, évidemment, le marché aérien s'est complètement effondré. Et Ryanair en appelle à Bruxelles pour faire casser ce monopole d'État pour Air France, en disant que c'est quand même franchement dégueulasse. Il faudrait qu'il y ait une concurrence juste et loyale, je cite le communiqué de presse, pour que Air France n'ait pas d'État et n'ait pas de possibilité d'obtenir des créneaux plus importants que les autres compagnies, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'égalitaire qui soit mis en place, et donc Ryanair demande les créneaux d'Air France.
Ouais, mais ils sont forts quand même, parce que pour être égalitaire, il faudrait qu'ils appliquent les mêmes conditions de travail qu'Air France. Et je ne veux pas défendre Air France, mais enfin Ryanair, c'est du low cost aussi dans les conditions de travail et dans l'exploitation des salariés, c'est high level. Donc s'ils veulent l'égalité, bah, qu'ils la mettent en place déjà dans le traitement de leurs salariés, ça serait original, ouais, mais... de
Alors,
la part
des mots
de cet exploiteur.
Que les syndicalistes pourraient effectivement utiliser, puisqu'ils parlent de renflouement discriminatoire, qui fausse le marché. Enfin, c'est très marrant. Donc,
ce sont des libéraux purs. Alors.
Voilà, exactement. Et donc, on voit encore une fois Ryanair venir taper contre Air France, qui, quand même, il ne faut pas se mentir, a obtenu beaucoup d'argent de l'État français. Qui n'a pas beaucoup hésité, hein, il faut quand même le dire. Donner des suites aussi de TikTok. Vous savez que Donald Trump avait lancé une chasse à TikTok aux États-Unis et à sa maison-mère ByteDance, donc maison-mère chinoise. L'idée de M. Trump était d'attaquer ByteDance pour éviter que la Chine, l'État chinois, puisse récupérer les données des Américains, des États-Unis d'Amérique. Et donc TikTok était sommé de vendre sa partie américaine, états-unienne, à d'autres. Et puis tout ça, à chaque fois, avait capoté, il y avait eu des problèmes, Oracle avait été sur le coup, Walmart, enfin tout ça. Et puis ben là, on a appris que finalement, avec la nouvelle, autorité des États-Unis d'Amérique, avec M. Biden, les choses allaient changer, donc TikTok, excusez-moi, n'est plus forcé de vendre sa partie aux États-Unis d'Amérique, enfin TikTok Biden's, donc. Par contre, il est toujours demandé à Biden's de trouver des solutions pour sécuriser les données des utilisateurs aux États-Unis d'Amérique. Donc là, ce qui est demandé, c'est de trouver encore une fois un intermédiaire entre TikTok et les utilisateurs et utilisatrices aux États-Unis. La différence avec avant, c'est qu'il n'y a plus de couperet au-dessus de la tête, qu'il n'y a plus d'échéance, et qu'on ne veut plus interdire ByteDance et TikTok aux États-Unis d'Amérique. Donc, ça semble être sorti d'une guerre entre les États-Unis d'Amérique et la Chine, en termes à la fois de sécurité nationale et de commerce international. Alors, Donald Trump juste avant de partir, signé un décret qui interdisait sous 45 jours un certain nombre d'applications. Alors, il y avait Alipay, hein, c'est une application de paiement, WeChat Pay, QQ Wallet, donc des services de paiement aux États-Unis d'Amérique. Il y avait VMET, un service de vidéo, et puis WPS Office, la bureautique. Donald Trump avait continué à vouloir interdire un certain nombre de services de ces applications aux États-Unis d'Amérique, avec l'idée que ces applications pouvaient renseigner le gouvernement chinois sur les utilisateurs et les utilisatrices, et surtout sur les entreprises, évidemment, aux États-Unis. Puisque vous savez que beaucoup d'entreprises se font hacker aussi, parce que vous et moi, en tant que salariés dans les entreprises, eh ben, on va mettre une clé là où il ne faut pas, on va ouvrir un mail où il ne faut pas, et on va servir d'applications sur les ordinateurs de nos entreprises là où il ne faudrait pas. Alors, on a aussi d'autres informations. Alors, il y a par exemple GameStop. Vous avez entendu parler de cette affaire GameStop. GameStop, ça a permis la spéculation. Donc aux États-Unis a fait chuter Wall Street. On en a beaucoup parlé sur les fonds spéculatifs qui sont intervenus. Vous savez, c'est des individus qui s'assemblent à un moment pour lutter contre des fonds spéculatifs qui font joujou avec la bourse et qui voudraient récupérer des sous. Bon, tout ça, ça a été abondamment commenté parce qu'on a trouvé qu'à un moment, ils ressemblaient un peu à des Robin des Bois. Au milieu de ces Robin des Bois, il faut aussi se souvenir qu'il y a des gens qui ont voulu faire de l'argent en se mettant du côté des Robin des Bois. Et puis, ça a vite fait plouf. Et puis, en plus de ça, il y a eu l'idée de vouloir soutenir une entreprise qui était en fait déjà en difficulté face à un fonds qui voulait faire de l'argent. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on sait, c'est que ces investisseurs, ces boursicoteurs, certains font de l'argent hein, d'une manière assez importante, en tout cas c'est des particuliers, se sont rassemblés cette fois pour essayer de soutenir l'industrie du cannabis aux États-Unis d'Amérique parce que tout le monde espère que M. Biden puisse alléger les choses.
Ce qui est déjà pas mal développé aux États-Unis maintenant.
Oui, mais c'est au niveau fédéral. Voilà. Là, on espère qu'il y ait en tout cas de la répression en moins, que peut-être qu'il y ait une ouverture. Alors, on peut peut-être rêver. Hein. Enfin, moi, je pense que les gens rêvent un petit peu. Mais du coup, ça fait qu'il y a plein de fonds spéculatifs qui commencent aussi à vouloir investir dans un certain nombre d'entreprises. Et du coup, on a ces groupes, hein, ces Robin des Bois, qui se mettent eux aussi à vouloir investir dans ces sociétés du cannabis. Et donc, du coup, ça fait réagir Wall Street. Et aujourd'hui, à Wall Street, il y a des gens qui demandent à réguler ces particuliers Robin des Bois qui agissent d'un coup d'un seul, un petit peu brutalement, mais comme si jamais en face on n'agissait pas aussi brutalement, donc ça fait beaucoup causer aux États-Unis au niveau de la bourse. Et puis une autre information, c'est la ville de Vendôme qui a vendu pour 10 000 boules, pardon je parle mal, 10 000 euros, je le dis mal exprès, son nom à LVMH, puisque vous savez qu'il y a la marque Vendôme qui existe, et qui existerait sans avoir hein, vendu le nom à cette municipalité. C'est la semaine dernière, c'était le 4 février, le conseil municipal donc, de Vendôme a accepté donc, de céder son nom. Il y a eu deux conseillers municipaux sur 33 qui ont voté contre.
C'est où Vendôme?
C'est dans le Loir-et-Cher, excuse-moi, je l'avais sur le bout de la langue.
C'est un village, ils sont 5, c'est ça, non?
Bah déjà, t'as 33 conseillers municipaux, ouais. Donc c'est quand même pas mal, hein. Écoute, c'est pas long, mais bon. En tout cas, 10 000 balles en même temps, si tu veux, le maire, il estime que de toute façon, il allait pas demander bien plus parce que ça valait peut-être pas plus. Par contre, d'autres trouvent les deux qui sont posés, par exemple, qu'il a vendu le nom à une multinationale pour 10 000 balles et que ça pourrait les gêner à l'avenir.
Mais ça fait quoi? Ils ont plus le droit d'utiliser le nom
Alors lui, il dit que si, mais les deux opposants estiment que demain, est-ce qu'un artisan qui ferait lui aussi...
Des parfums dans ce village?
Alors non, parce que c'est que sur les bijoux.
Oui.
Donc c'est un petit peu particulier, mais en tout cas, si t'es un artisan, que je sais pas, tu fais du bijou en verre par exemple, tu pourras plus peut-être dire que ça c'est un collier Vendôme. Donc ils s'en inquiètent, mais c'est quand même curieux de vendre...
Le nom d'une ville ou d'un village à une multinationale, ouais.
On est bien d'accord,
c'est horrible.
C'est quand même pas très très chouette. Alors du côté de la municipalité, on dit oui, mais il va y avoir de l'emploi. Donc on a l'impression qu'on a vendu le nom de la ville contre de l'emploi. Enfin, c'est un peu curieux là aussi. Bon, c'est pas la première fois hein, que ça se fait. On sait aussi qu'il y a des marques qui existent maintenant. Paris est devenu une marque, mais c'est quand même pas la même chose. C'est déjà pas chouette de transformer Paris en marque. Mais là, de vendre le nom d'une municipalité, bon, c'est une curiosité du moment.
C'est à moi ?
Non, je te laisse poursuivre.
Ah, alors moi, je vais faire le truc glauque, hein, le sujet glauque aujourd'hui. C'est moi qui le fais. On va parler de pédophilie et de Gabriel Matzneff. Donc vous vous rappelez, l'affaire Matzneff, hein, c'est sorti suite au livre de Vanessa Springora, qui racontait comment il avait un peu abusé d'elle quand elle était très très jeune. Alors, elle avait un peu moins de 14 ans. Et comment il y avait... Voilà, elle a décrit l'emprise qu'il pouvait avoir sur elle. Donc là, il est... alors, il est visé toujours par, une enquête pour viol sur mineur de moins de 15 ans. Il a envoyé... Et alors, il s'est passé un truc bien, c'est que... Enfin, un truc marrant, c'est que tous les éditeurs l'ont viré. Ces éditeurs. Donc, il ne peut plus publier de livre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il publie un livre, ce qu'on appelle un compte d'auteur, tout seul. Il s'auto-publie. Un roman qui s'appelle « Vanessa Virus ». Donc, il parle d'un homme, donc de lui, mis au banc de la société après l'apparition d'un autre livre. Donc là, bon, comme Vanessa Virus et Vanessa Springora, tout ça, il raconte pendant 85 pages comment il a mal vécu toute cette histoire. On rappelle hein, le livre de Vanessa Springora, Le consentement, un gros succès, hein, 160 000 exemplaires rien qu'en France. Et puis, alors elle dit jamais Gabriel Matzneff, elle l'appelle G, mais comme elle cite le nom de ses livres dedans, tout le monde savait que c'était lui, quoi. C'était une fausse, un faux truc anonyme, hein. Le but, c'était de dénoncer ce qui s'était passé, hein. Donc ça, elle aura pu carrément mettre le nom. Et alors, donc, il sort un livre auto-édité. Alors, il y a des gens qui l'ont eu, ce livre. Alors, il propose deux tirages. Un tirage ordinaire à 100 euros. Cher quand même, mais c'est un truc de soutien. Tu soutiens Matzneff. Et un tirage de luxe à 650 euros. Il a prévu d'en sortir 200 exemplaires. Voilà. Alors, il explique, hein, c'est un soutien à un homme qui ne peut plus toucher d'argent de la vente de ses livres parce que les éditeurs les ont retirés et qui ne touche plus non plus l'allocation pour écrivain à faible ressource qu'il avait du Centre National du Livre, qui, devant l'affaire de pédophilie et de viol, a retiré son allocation. Elle avait sûrement le droit puisque ça n'a pas été contesté et du coup, c'est plutôt tant mieux. Alors, au départ, la liste des souscripteurs devait rester secrète. Bon, c'est pas toujours facile de s'afficher pote ou en soutien à un pédophile. Mais alors, il y a eu plusieurs personnes qui en ont parlé. Alors, il y a des gens qui décrivent pourquoi ils ont soutenu cet homme. C'est juste indéfendable, hein. Et puis, il y a quelqu'un qui a balancé ce qu'il y a un peu dans le livre, et notamment l'hommage que rend Gabriel Matzneff à 5 de ses soutiens indéfectibles. Donc, Alain Finkielkraut, Bernard-Henri Lévy, Catherine Millet, Dominique Fernandez et Franz-Olivier Gisberg. Alors, on se rappelle hein, que Catherine Millet, qui est une romancière, avait déclaré en juin qu'elle ne regrettait pas d'avoir signé une pétition lancée par Matzneff en 77 pour la dépénalisation des relations sexuelles avec des mineurs. Bref, pour une légalisation de la pédophilie. Elle assume. Quelle horreur! Me direz-vous. De même, l'académicien Dominique Fernandez avait signé une tribune en janvier 2020 contre, je cite, « la bonne conscience de ceux qui attaquent l'écrivain ». Ouais, tout va bien. Franz-Olivier Gisberg, Alain Finkielkraut, ils ont tous les deux relativisé l'affaire qui touchait Matzneff. Notamment Finkielkraut, je crois qu'il avait dit « le cas Springora, c'est à la limite de la pédophilie ». Parce qu'effectivement, elle a 14 ans. Bon, de toute façon... Matzneff, il a parlé plein de fois de ses relations pédophiles, c'est pas que cette affaire-là qui compte. Alors du coup, on en est là à la sortie de ce livre voilà, qui est horrible, hein, où il raconte sa pauvre histoire de mec mis au banc de la société. À 84 ans, je pense qu'il l'a quand même largement mérité, il a passé 84 ans, ou on va dire 70 ans tranquille à faire des horreurs, et... faut peut-être qu'un jour, il en paye le prix. Mais on va revenir sur une autre chose liée à la pédophilie et notamment à l'affaire Matzneff. C'est une question qui peut se poser. La pédophilie est-elle de gauche, d'extrême gauche, de droite ou d'extrême droite? On vous dirait que c'est un peu con comme question, c'est un peu bizarre. Sauf que depuis l'affaire Matzneff, on a vu beaucoup la presse d'extrême droite attaquer la gauche et l'extrême gauche en disant que vous avez soutenu la pédophilie dans les années 70. Alors, c'est pas faux, hein. On se rappelle les tribunes d'intellectuels, les articles de Libération qui étaient ressortis, où dans les fin des années 70, début des années 80, il y avait la défense de la pédophilie, enfin du droit aux mineurs d'avoir des relations sexuelles avec des majeurs. Alors certes, du coup on se dit, bah tiens, il y avait vraiment un truc qui ne fonctionnait pas dans les mouvements gauchistes, ou de gauche, quoi. Alors j'ai quelques exemples, hein. Titre de Marianne, il y a 50 ans, quand la gauche virait dingo, maoïsme, islamisme, pédophilie. Valeur actuelle, hein, journal pas du tout progressiste, qui avait fait un article, La gauche et la pédophilie, une histoire monstrueuse. Dans un magazine que je ne connaissais pas, mensuel, qui s'appelle L'Incorrect, un gros truc d'extrême droite, hein, limite néo-nazi, hein, ils avaient fait un dossier sur les LGBT, qui détestent, quand les pédophiles militaient dans les rangs LGBTI. Bon, bref, tous ces torchons populistes et d'extrême droite, ils oublient un truc. Ils oublient que, à cette même époque, l'extrême droite, elle aussi, défendait la pédophilie. Et je vais citer quelques petits exemples pour dire que c'était plutôt une époque qui était un, voilà, qui a des soucis avec ça, qu'il y a toute une histoire hein, qui s'explique, des sociologues l'expliquent bien, mais voilà, ça a touché, et ça a beaucoup plus touché finalement, quand on regarde les témoignages, certains milieux d'extrême droite, et de droite dure, finalement que la gauche traditionnelle. Alors petite citation de Matzneff, on revient à lui. En fait, il avait sorti ça et ça avait choqué personne. Il avait dit « La presse d'extrême droite est hystériquement, actuellement, hein, hostile aux pédophiles. Ils sont à ses yeux l'ennemi numéro un, l'incarnation de la gauche abhorrée, et cela me fait rigoler. » Et il explique pourquoi. « Car j'ai connu, je connais un très grand nombre de pédophiles, et ils sont presque tous, de droite ou d'extrême droite. » Un pédophile qui raconte ses amis de droite et d'extrême droite pédophiles. Il a écrit ça quand ? En 2014. Ça a été republié une deuxième fois dans son journal qui s'appelle Le Jeune Moabit, journal 2013-2016, paru chez Gallimard en 2017. Et personne n'avait rien dit. Ni l'extrême droite qui avait rien. Donc, bah, oui, il rappelle un truc en fait, qu'on connaît. Au final, si on regarde, les plus fidèles soutiens de Matzneff sont plutôt du côté de l'extrême droite. Finkielkraut, c'est pas un progressiste, hein. Faut quand même pas pousser mémé dans les orties. Et on en trouve notamment pas mal au GRES. Alors le GRES, ça veut dire le Groupement de Recherche et d'Études pour la Civilisation Européenne. C'est un think tank d'extrême droite, qu'on appelle Nouvelle Droite, hein, pour pas faire facho, mais qu'on est facho quand même. Et notamment Christopher Gérard, j'ai lu plein de trucs cet après-midi là-dessus, j'ai eu beaucoup envie de vomir, hein. Je vous raconte quelques histoires. Donc Christopher Gérard, écrivain d'extrême droite, lui, il était responsable des Amis de Matzneff. Alain de Benoist, qui est assez connu, tête pensante aussi de ce fameux Grèce, grand défenseur de l'écrivain, il lui a consacré un texte dithyrambique intitulé, et vous ne rigolez pas, L'Archange Gabriel, pour Gabriel Matzneff. Pas mal. Alors, vous me direz, alors c'était dans une revue d'extrême droite, hein, il s'appelait Éléments, c'est en 86. Et il y aborde notamment les penchants pédophiles de l'auteur. Et je vais citer des phrases, vous allez voir, donc par un gars d'extrême droite, je cite, « Qu'un écrivain déclare, comme la chose la plus naturelle du monde, qu'il préfère le commerce Chanel de très jeunes personnes aux turpitudes classiques de ses contemporains, il n'en faut pas plus, en pleine société permissive, pour le faire passer pour le diable dans le landerneau parisien. Il me semble, selon mon échelle de valeur personnelle, qu'il est plus scandaleux de regarder les jeux télévisés, de jouer au loto, que d'avoir la passion des fesses fraîches, des émotions naissantes et des seins en bouton. » C'est gerbant quand même tout ça. Donc c'était dans un extrait de L'Archange Gabriel, publié par ce militant d'extrême droite, Alain de Benoist. Non, voilà. Il y en a plein d'autres. Hein. Alors c'est pas le seul, hein, de Benoist. La revue qui s'appelle Lutte du peuple, de Christian Bouchet, avait fait un gros article en 96, donc 10 ans plus tard, faisant l'apologie de la pédophilie de l'écrivain Matzneff. Et je cite « Comment oser juger celui qui, par son mode de vie, par son choix de comportement, est le porte-drapeau des dissidents de la civilisation occidentale ?» C'est pas mal quand même. Hein. Oh, bon, voilà. Bon, bref, il y a plein de trucs comme ça. Alors, Renaud Camus, dont je parlais tout à l'heure, lui aussi, il avait défendu la pédophilie dans la revue L'Infini de Philippe Solers. C'était juste après l'affaire Dutroux, truc absolument apocalyptiquement horrible. Le magazine de Solers avait fait un truc spécial pédophilie avec Elisabeth Badinter, Onfray, Houellebecq, Matzneff d'invité et Renaud Camus. Et il avait écrit, je cite, que l'ensemble des discours sur la prétendue pédophilie constitue la dernière forteresse la plus farouchement gardée de la vieille haine immarcescible, je ne connaissais même pas le mot, de la sexualité. Il complète. Les enfants ont une sexualité des pulsions sentimentales bien connues qui peuvent très bien se porter sur des adultes. Voilà. Et donc les adultes doivent en profiter, bien évidemment. Voilà. Donc toute cette bande de petits fachos qui ont défendu pendant des années la pédophilie, qui aujourd'hui font je lave plus blanc que le blanc en attaquant soi-disant l'extrême gauche pédophile. Oui, l'extrême gauche et les articles de Libération a eu sa part de propos indéfendables aujourd'hui. Mais voilà, faudrait pas non plus mentir à longueur de discours. L'extrême droite a quand même énormément défendu Matzneff, encore aujourd'hui Matzneff, et la pédophilie.
Alors on va parler de Birmanie. Il est difficile d'échapper à cette information qu'il y a donc eu un coup d'état militaire en Birmanie, que les Birmans et les Birmanes descendent dans la rue
courageusement.
Courageusement, appel à la désobéissance civile, à la grève, que les forces de police, les militaires ont déjà procédé à un certain nombre d'arrestations, que ça soit d'ailleurs dans le parti d'Aung San Suu Kyi ou d'autres militants et militantes des droits humains en Birmanie, que le vice-président de la chambre basse du Parlement, par exemple, a aussi été arrêté, que des responsables politiques locaux ont aussi été arrêtés. Donc il y a ce mouvement qui est dans la rue. Et puis... Puis on peut s'interroger sur ce nouvel homme de la Birmanie, Min Aung Hlaing, hein, sans l'accent.
Nouveau t'as chef... pas fait birman en première langue.
Non, mais je crois que j'ai parle français, je t'avoue que déjà je parle très très mal. Hein, vous vous en rendez compte chaque jeudi. Malheureusement, je ne suis pas polyglotte. Donc on a un nouveau commandant en chef, 64 ans, qui a été à l'université, fils d'un ingénieur, qui vient d'une province qui, enfin, loin de la capitale, si vous voulez, qui n'a pas l'aisance de la capitale, qui a procédé petit pas par petit pas pour se retrouver donc à la tête de ce coup d'État et à la tête de la Birmanie. Il n'est pas connu pour être un bonhomme marrant. Vous allez me dire, c'est pas toujours le cas des militaires, mais il y a des militaires qui sont des gens très...
Enfin, en général, quand ils font un coup d'État, ils sont pas marrants.
Mais, en tout cas, il y a un certain nombre de témoignages qui arrivent maintenant, de diplomates étrangers qui racontent qu'il n'est pas marrant, qu'il est pointilleux, limite chiant, quand on lit un petit peu entre les lignes de certains témoignages.
En plus d'être dictateur.
Alors, pour l'instant, bon, on va attendre la dictature, mais en tout cas, il en prend un chemin autoritaire assez certain. Il a eu des difficultés hein, à rentrer à l'académie militaire. Il n'est pas connu non plus pour être quelqu'un d'extravagant, ayant un potentiel de coup d'État, si vous voulez. Il s'était pour beaucoup...
Personne s'y attendait, en fait, c'est ça ?
Bah, c'était un petit gars, quoi.
C'est un petit gars.
Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il est quand même à la tête de la Birmanie, de ce coup d'État, et pour beaucoup, il valait pas grand-chose. Hein, il était un petit peu dans l'ombre. Donc, c'est pas tant une surprise, parce qu'effectivement, il avait pris de la place ces dernières années, mais il avait fait ses armes aussi, hein, dans certains territoires où il y avait de la rébellion, des ethnies qui s'affrontaient, donc il avait montré ses capacités militaires. Mais c'est vrai qu'il avait pas une envergure de chef, là, quand on le fréquentait, a priori, au quotidien, au-delà du fait de ne pas être un gars marrant. Donc, par contre, on sait que c'est un bonhomme qui en veut, un dur, et que la répression risque d'être vraiment très sévère, parce qu'il est certainement plus proche d'un Poutine.
Poutine, au début, était discret, personne pensait qu'il serait
autoritaire. Ouais, sauf qu'il avait déjà de la poigne à l'intérieur. On voit, les gens disent que, quand même, Poutine, on sait qu'il avait une envie d'arriver quelque part. Hein, voilà. Donc, enfin, en tout cas, il avait été quand même proche de l'ancien dictateur. Hein, ça a été son homme de confiance. Donc, il avait quand même placé un petit peu ses pions. Mais voilà, c'est vrai que, bon, c'était pas un bonhomme sur qui on pensait compter.
Il s'était pas fait connaître pour défendre la démocratie non plus.
Non. Alors, évidemment, il y a la question de savoir maintenant pourquoi ce coup d'État, au-delà du pouvoir. Certainement, pensent certains, parce que ce général et d'autres, et en particulier sa famille, ont voulu protéger leur pognon. Ce serait une affaire de gros sous. C'est pas la première fois qu'un coup d'État permettrait de protéger ses dollars, hein, son argent, son portefeuille. Mais il faut se souvenir quand même qu'en Birmanie, la junte militaire a beau à un moment avoir été effacée, on va dire, d'une vie politique.
En partie seulement. Hein.
En partie. En tout cas, elle détenait toujours beaucoup l'économie birmane. Hein. Je veux dire, c'était une réalité. Et on pense que là, on a une famille qui a voulu aller très vite, puisqu'il allait bientôt avoir 65 ans, qu'il allait être éjecté de certaines positions, parce qu'il y a une loi qui dit qu'à partir de 65 ans, tu dois dégager, on va le dire aussi simple que ça, et que donc il aurait voulu sauver une partie du pognon qui détient en propre et sa famille. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut penser que M. Biden, président des États-Unis d'Amérique, a annoncé hier approuver un décret qui ouvre la voie à des nouvelles sanctions contre les commandants de l'armée birmane. Là, l'idée, c'est de bloquer l'argent qui est aux États-Unis d'Amérique, ouais, pour éviter que, évidemment, ben, ces gens se servent de cet argent aux États-Unis d'Amérique, puissent s'enfuir si à un moment, avec cet argent, parce que ça les empêchera peut-être pas de s'enfuir, si jamais il y avait un revirement, et donc on arrivait à chasser ces militaires. Mais l'idée, c'est toujours de bloquer le pognon, hein, dans ce genre d'idée. Alors, là, c'est là un petit peu la question de savoir... quelles sont exactement les entreprises que ce commandant en chef va vouloir protéger. Vous avez vu que je fais tout pour jamais redire son nom de famille. Hein, j'échappe à tout, hein, je fuis. Hein. En tout cas, il a la tête de grands conglomérats du pays, il en fait partie du moins. La Manyar Economic Corporation, la MEC, et la Manyar Economy Holding, c'est des groupes qui sont absolument gigantesques, qui sont dits même tentaculaires parce qu'on a du mal à comprendre les ramifications. Ça pourrait faire partie finalement d'OpenLux, hein, vous savez, ce grand mouvement de transparence contre le Luxembourg avec des multifiliales absolument gigantesques. Bon, bah là, l'idée, c'est d'arriver à comprendre exactement tous les secteurs d'activité qui étaient derrière ces deux structures. On parle évidemment des zones portuaires, du transport, des mines, en particulier des mines de rubis et de jade, de l'immobilier, de la construction, dont des secteurs extrêmement importants en Birmanie. Et que, bah, voilà, c'est ça qui aujourd'hui, donc, il y aurait une volonté de protéger pour éviter de perdre cet argent et d'avoir aussi derrière des attaques, puisqu'il risquait aussi à un moment de peut-être être attaqué par la justice birmane et donc bah, d'avoir quelques soucis. Donc là, comme ça, bah, il s'évite tout problème. Alors d'autres, évidemment, questions, c'est comment vont agir maintenant les multinationales qui sont très présentes en Birmanie.
En Birmanie. Comme elles sont partout dans le monde.
Mais c'est vrai qu'en Birmanie, c'est souvent critiqué quand même, parce qu'on a quand même une longue dictature, et que...
Et que Aung San Suu Kyi, avec le soutien au massacre des musulmans, voilà, elle n'a pas donné envie de l'aider, de la défendre, et de défendre cette démocratie pseudo-naissante, même si c'était une démocratie un peu artificielle, puisque l'armée avait encore pas mal de pouvoir. Effectivement, ils se sont fermés des portes.
Alors, pour l'instant, on sait que deux multinationales stop leur partenariat avec les structures birmanes, c'est Suzuki, automobile, constructeur, et Kirin. Kirin, ça vous parle peut-être moins, c'est une de l'agroalimentaire, c'est japonais.
La bière.
C'est la bière. Entre autres, ils font aussi des softs, hein, comme on dit dans le jargon de l'agroalimentaire. Mais effectivement, c'est une bière. Tu connais bien ta boisson.
Oui, ouais,
Kirin, qui a fait tout de suite, assez rapidement, hein, savoir, c'était vendredi dernier quand même, donc c'est assez rapide, hein, savoir qu'il mettait fin donc, à une alliance avec la Manyar Economic Holding, dont je vous parlais tout à l'heure, justement parce que ça sent mauvais et qu'il fallait donc quitter ce conglomérat birman. C'est une bonne chose, hein, qu'on ait ces deux groupes, mais on pourrait parler évidemment de groupes japonais, vous aurez noté, des groupes français.
Ah.
Alors, on a Accor qui est présent avec plusieurs entités hôtelières, hein, Novotel, Ibis en Birmanie, Lafarge, on a Bouygues, on a Peugeot, on a Total. Pour l'instant, on ne peut pas dire que ça cause beaucoup.
Tu veux dire qu'ils pensent que le business est plus important que la démocratie?
Alors, Total, jeudi dernier, a réagi en expliquant étudier l'impact de la situation.
Ah ouais, bah étudier les gars.
Ça étudie. Mais alors, grave, grave, grave. D'autres entreprises, hein, sont aussi en attente de savoir ce qu'ils vont bien pouvoir faire. C'est par exemple Voltalia, qui est proche de Mitel, qui est une compagnie de téléphonie proche du clan militaire, des groupes militaires. Voltalia, c'est groupe Muyez. Hein, on est dans Muyez, vous voyez. Hein. Donc, on attend un petit peu les réactions de ces entreprises françaises, parce qu'on veut bien les entreprises belges, espagnole, américaine, si vous voulez. Mais bon, c'est vrai que quand même, les multinationales qui se disent tellement françaises, on aimerait bien savoir si leur patriotisme va aller jusqu'à quitter la Birmanie au nom de la démocratie.
C'est pas gagné.
J'ai cité quand même un certain nombre de noms. Lafarge, pas bien quitter la Syrie. Total, et la Birmanie, c'est une longue, longue, longue histoire. Il faut s'en souvenir quand même. C'est pas une histoire récente, hein, Total. C'est une des premières entreprises multinationales à avoir été attaquée sur ses positions en Birmanie. Donc, on attend maintenant de savoir effectivement ce qui va se passer pour ces entreprises. En tout cas, moi, ça m'intéresse parce que je pense que malgré... On attend aussi hein, les positions de l'Union européenne qui tardent aussi à venir. Parce que du coup, ça va pousser des multinationales à retirer certains partenariats. Ça ne veut pas dire forcément quitter la Birmanie, mais en tout cas, ça veut dire se détacher...
des liens avec l'armée, ouais.
Qui aujourd'hui sont à la tête de ce coup d'État.
Alors, du coup, tu me donnes la parole. Alors, je vais terminer avec moi une dernière info environnementale. On va parler d'Orano. Vous savez, Orano, c'est le dernier nom de cette entité qui s'appelle Areva, qui s'est appelée Framatome, enfin, tous ces trucs-là. Grosso modo, c'est moi, j'aime le nucléaire, j'aime l'uranium, et je vais installer des mines partout pour bousiller la planète et pour sortir le combustible radioactif utile dans les centrales nucléaires françaises. Je vais résumer à peu près. Voilà. Ce que fait Orano aujourd'hui, détenu en partie par l'État. Alors, deux permis d'exploitation minière ont été accordés à Orano. On est dans le Groenland. On se dit, putain, mais ils vont bousiller le Groenland, alors que le Groenland, pour l'instant, est à peu près sauvegardé. Eh ben oui, une zone à peu près de 3500 km² quand même. Donc, Orano doit commencer ses travaux d'exploration cette année, en 2021. Donc, d'abord, des mesures physiques réalisées depuis le ciel. Ensuite, des observations sur le terrain, des prélèvements de surface. Par les salariés géologues du groupe. Après cette première phase d'exploitation, une étude d'impact environnemental pour dire que ça ne posera pas de problème, on connaît la réponse d'avance, suivi d'évaluations plus poussées du potentiel des deux sites, puisqu'il y a deux sites et deux potentiels de trouver de l'uranium. Puisqu'on vous rappelle, l'uranium est 100% importé en France, hein, puisqu'on n'en a pas, on n'en a plus chez nous. Donc il faut aller bousiller la planète ailleurs qu'en France pour pouvoir faire tourner les centrales nucléaires des nucléophiles d'EDF et d'Orano qui marche bien évidemment main dans la main. Alors c'est pas le premier projet, hein, c'est un des multiples projets que défend Nicolas Maes, qui est le directeur des activités minières du groupe Orano. Il y a des projets au Niger, on vous rappelle quand même qu'on a quand même des doutes sur la présence française au Mali, juste à côté du Niger, qui serait quand même pour en protéger hein, les mines d'uranium. On a un énorme doute là-dessus. Enfin, pas nous, mais il y en a qui ont des doutes. Nous, on a bien compris pourquoi c'était. Donc, il y a des projets au Niger encore, au Kazakhstan, en Mongolie, au Canada et en Ouzbékistan. Il faut trouver de l'uranium, c'est pas facile. Donc, voilà le truc. Alors, 141 associations environnementales étaient énervées. Ils se sont réunis. En France, il y a le réseau santé nucléaire qui est dedans. Pour demander un moratoire sur toutes les activités minières, pas que celles d'Orano, au Groenland. Alors, ils sont allés demander au Danemark, hein, puisque c'est un peu le Danemark. Il y a un truc bizarre, hein, tu rappelles que le Groenland n'est pas autonome totalement. Donc voilà. Alors, le Groenland, il y a beaucoup de réserves de pétrole, de gaz et de minéraux comme l'uranium. Il y a actuellement 70 licences d'exploration et d'exploitation. Et notamment sur le Groenland du Sud, c'est là où il y a la plus grosse diversité. Le Groenland du Nord, il n'y a que de la neige donc, ou de la glace. Et du coup, ça va avoir un impact très très fort sur l'environnement. Il faut savoir que l'extraction d'uranium, par exemple, c'est très très polluant. On dégage des poussières radioactives notamment, puis on bougie tout, hein, parce que c'est des mines à ciel ouvert, on creuse pas, c'est à l'extérieur, du coup, voilà, on casse tout. Alors, il y a d'autres sites hein, qui sont concernés par cet appel, il y a Kujata, qui est dans le sud aussi du Groenland, c'est pas Orano, c'est d'autres, Orano n'a pas le monopole de la destruction de l'environnement pour chercher de l'uranium, mais voilà, il y a des choses là qui sont en œuvre. Bon, on espère que les pressions de ces 141 associations environnementales pourra marcher et pour arriver à faire reculer ces multinationales minières qui bousillent tout, alors qu'on sait très bien qu'on peut se passer du nucléaire et le remplacer par des choses qui bousillent beaucoup moins.
Allez, je termine donc par ma bonne nouvelle, la deuxième de cette semaine. C'est l'abandon de ce projet d'extension à l'aéroport parisien de Roissy-Charles de Gaulle. Là, c'est un salut chaleureux, mais très très fort hein, de ma part à tous ceux et toutes celles qui se battent contre ce projet sur place. Le projet a donc demandé au groupe ADP d'amener un nouveau projet qui ne demande pas une extension. Là, l'idée, c'était donc d'avoir un quatrième terminal sur 167 hectares. C'est un projet quand même qui allait coûter entre 7 et 9 milliards d'euros. Tout ça pour amener 40 millions de passagers en plus hein,
et donc ça fait des milliers d'avions
d'ici 2037. Alors dans le monde d'avant, C'est-à-dire quand il y avait encore des avions qui volaient tout ça, ouais, régulièrement, il y avait 1300 avions jour, et là, ça, on allait passer à 1800. Ce qui veut dire qu'on allait élargir les heures compliquées, c'est-à-dire en particulier entre 22h et 6h, où il y aurait eu des nuisances.
Ah oui, parce que ceux qui sont autour de l'aéroport, c'est compliqué.
Ouais, alors, il faut savoir que, en fait, un avion, il fait du bruit loin même de l'aéroport. Ouais. Hein, c'est, donc, plus tu as des avions autour de toi, c'est pas juste quand tu le vois au-dessus de ta tête avec les roues qui rentrent dans l'avion. Hein, c'est que ça va très très loin, le bruit. Hein. Et puis que surtout, on se disait que ça ne servait à rien d'avoir un agrandissement de cet aéroport. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, on a appris ça aujourd'hui. Il paraît qu'à l'heure de la lutte contre le réchauffement climatique, c'était un projet qui n'était pas souhaitable.
Ouais, ça ressemble
faut marrer.
Ouais, ça ressemble à une grosse excuse parce que, en fait, on sentait que ça allait être abandonné vu la situation financière actuelle. Parce qu'il y a plus peu d'avions qui volent. Il leur faut au moins 2-3 ans avant de retrouver une situation d'avant la crise du Covid. Du coup, on se dit, ils l'annoncent maintenant pour dire, regardez, on a pris une mesure environnementale, mais dans 4 ans, ils reviennent avec un nouveau projet parce que toute l'économie aura redémarré. Ça semble un truc hypocrite comme ça.
Il faut surtout se souvenir qu'en juillet dernier, l'autorité environnementale avait expliqué que en termes de pollution, de nuisances sonores, d'émissions de gaz à effet de serre, ça va être tout mauvais ce projet. Donc déjà, il y avait une autorité qui avait dit « Ben non, on va pas y aller ». Donc le gouvernement a fini de mettre les deux pieds dedans en disant « Effectivement, on va pas y aller ». Comme tu le dis, il y avait une petite problématique économique dessus qui faisait que ça marchait pas. Une forte opposition quand même d'associations,
ouais, mais d'habitants, ça environnementales,
mais aussi d'élus. Ouais. C'est-à-dire, donc, il y avait quand même des gens qui se battaient depuis déjà maintenant plusieurs années contre ce projet. C'est plutôt une bonne chose. Maintenant, évidemment, on sait que les nuisances sonores dues aux aéroports doivent cesser. On doit ralentir le trafic aérien et en particulier les vols intérieurs. On sait que pour faire un Paris-Lyon, par exemple, il n'y a pas besoin d'un avion. Le train, ça marche extrêmement bien. Il suffit juste d'être bien organisé.
80 fois moins d'émissions de CO2 en train.
C'est énorme. Et ça coûte moins cher, c'est plus pratique, voilà, donc on peut réduire en interne, si on favorise le train, les lignes aussi régulières, locales, si on redéveloppe un vrai réseau ferroviaire, on peut se passer des lignes intérieures polluantes en termes d'émissions à effet de gaz, mais aussi en termes de nuisances sonores, de tout un tas de problématiques, on peut arrêter un certain nombre de ces liaisons aériennes. Alors oui, au coût évidemment du salariat, mais on peut penser à redévelopper des savoir-faire sur d'autres domaines. Voilà, donc c'était ma deuxième bonne nouvelle de la journée, parce qu'il y a des gens qui se sont battus quand même depuis un moment contre ce projet inutile. Il y en a d'autres, hein, il y a des ZAD qui sont en train de se créer en France, qui s'installent, il y en a d'autres qui existent, qui sont plus évidemment petites et moins médiatisées que Notre-Dame-des-Landes, mais voilà, les projets inutiles sont attaqués un peu de partout, et c'est plutôt une bonne chose, parce que c'est souvent d'abord qu'une affaire de pognon. Je suis d'accord, tu es soit d'accord avec moi.
Je suis totalement d'accord.
Eh bien, pour ce soir, nous allons vous laisser. On va se retrouver la semaine prochaine, si vous le voulez bien. On vous rappelle que les émissions font ce qu'elles peuvent pour exister, en particulier quand elles sont à l'antenne à près 18h. Elles font aussi ce qu'elles peuvent quand elles sont à l'antenne avant 18h. Quand il n'y a pas d'émission, il y a des magnifiques bandes continues qui sont donc des bandes musicales préparées par les animateurs et animatrices de Radio Canu. Et que y a de la bonne musique et qu'il faut savoir aussi en profiter. Que vous pouvez retrouver la plupart des émissions sur de la baladodiffusion, sur les enregistrements donc en ligne sur les blogs des émissions. Hein, vous allez sur radiocanu.org et puis vous retrouvez tout ça. Et on vous souhaite une bien bonne soirée et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao.